RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous. C'est parti pour de la discussion et du débat. Ce sont les GG, ce sont les grandes gueules qui sont avec vous, bien évidemment, en direct jusqu'à midi. Avec aujourd'hui, dans les GG, Charles Consigny, l'avocat. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec Laura Varton-Martinez, sophrologue. Bonjour Laura.
Hola todos.
Et puis Flora Guebali, entrepreneur dans la transition écologique et des nôtres. Bonjour Flora.
Bonjour.
On a un invité aujourd'hui dans le Face aux GG, mais tout à l'heure à 10h, c'est le député socialiste Jérôme Guedj. Oui. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il sera avec nous pour continuer de parler de son programme et de tous ceux qui se préparent au Parti Socialiste, parce que Manuel Valls se prépare aussi, il pense Bernard Cazeneuve, il y pense aussi François Hollande se prépare. Il va y avoir, je pense, on a dizaines de personnalités, gauche au Parti Socialiste.
Mathieu
Bigas. Pourquoi pas aussi
donc Très à gauche.
On en parlera tout à l'heure avec Jérôme Guedj à partir de 10h. On reviendra sur la cacophonie du 1er mai. Là, je vous lance un appel déjà, d'ores et déjà, pour tout à l'heure. Et qui va ouvrir, qui va rester fermé? On comprend plus rien à ceux qui pourront travailler, pas travailler, en famille, avec leurs salariés. C'est à 11h, vous pourrez le dire, au 32-16. En attendant, je vous propose tout de suite de s'intéresser à une chose. Notre quotidien, c'est le prix de l'essence, les bénéfices de Total et savoir quelle est la meilleure solution. Est-ce que finalement, c'est pas Total qui a raison? La meilleure des redistributions, c'est de continuer de plafonner les prix. Plafonner les prix, c'est mieux que taxer. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
C'est un braquage. Le carburant s'installe comme un impôt. Manger ou conduire, il faut choisir.
Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde.
Le pétrole décolle, $125 ce matin. La menace de prolongation du blocus dans le détroit d'Ormuz par Donald Trump n'arrange pas les choses, ça les aggrave. Même dans ce contexte, le marché pétrolier, on l'a bien compris, il est toujours tendu. On a une inflation aussi qui accélère, une hausse des prix qui est à 2% en France. Alors les profits des groupes pétroliers, on en a parlé hier, c'est vrai que c'est Total qui regarde à la loupe. C'est le 4e groupe pétrolier mondial. C'est le premier français, 5,8 milliards de dollars. Total interpellé par le gouvernement hier par le Premier ministre Sébastien Lecornu.
J'aime pas beaucoup non plus dans le débat public le Total bashing. C'est une entreprise française qui emploie des Français. Elle marque aussi une part des intérêts stratégiques du pays et donc nous ne tirons pas une balle dans le pied. Pour autant, il y a un débat qu'il faut objectiver. S'il y a des résultats exceptionnels, ça pose la question d'une redistribution qui pourrait être exceptionnelle. Bon, il y a deux manières de le prendre. Réflexe français un peu pavlovien, fiscalité. Après, si on est pragmatique, quand on voit ce que Total Energy a fait sur le plafonnement des prix à la pompe pendant quelques jours, on le voit bien que ça, pour le coup, c'est immédiat pour les Françaises et les Français. Donc, il faut bien que Total Energy se positionne d'une manière ou d'une autre sur une manière de redistribuer et potentiellement de la manière la plus efficace qui soit, de la manière la plus rapide, en tout cas dans sa politique commerciale.
Ça, c'était hier au Sénat. Depuis, Total a répondu, monsieur le Premier ministre, pour nous, la meilleure des redistributions des profits, c'est le plafonnement des prix. Donc, il reste 1,99 et 2,09 le litre. 1,99 pour l'essence, 2,09 pour le diesel. C'est le prolongement, donc carburant plafonné. Bah, c'est mieux que taxé. 32,16 pour en discuter avec les GG. Et c'est Total qui a la meilleure stratégie ou pas? Qu'est-ce que tu en dis, Flora Guebali? Bah, tu es plutôt pour la taxe.
À ton avis.
Ce que montre, ça, je me tourne vers ton
point. Bah oui, non, mais ce que montre cette histoire, c'est que il y a des gens qui sont ravis quand c'est la guerre, qui sont ravis quand il y a la crise, parce que ils se gavent. Et donc aujourd'hui, être actionnaire Total, plus il y a des guerres et plus il y a des crises, plus c'est rentable. Ça montre à quel point il y a un problème. Alors je vais me faire hurler dessus par mes collègues, mais avec le capitalisme actionnarial. Désolé de vous mettre des concepts à 9h03 dans la figure. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de dire pourquoi une crise, une catastrophe naturelle ou une guerre, ça profite à l'économie. C'est quand même que notre système, il tourne pas rond. On devrait pas il devrait pas y avoir quelques-uns qui tirent profit du malheur du plus grand nombre. C'est pas possible. Et donc aujourd'hui, il y a.
C'est pas Total qui a décidé de la guerre. Hein.
C'est pas Total qui a décidé de notre système économique.
A joué la stratégie sur des achats de stock avant la guerre, tu vois, pour sécuriser. Pas, oui, ils ont fait de l'argent, c'est le marché, c'est le capitalisme.
D'accord, oui, oui, c'est le marché, c'est le capitalisme. Donc c'est pas Total
qui. Si Total ne fait pas, Total va couler, c'est les autres qui en vont en profiter.
C'est pas Total qui a écrit les règles, mais c'est Total qui en profite et ses actionnaires. Et donc aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que plus les crises vont s'accélérer, plus la population va s'appauvrir et plus quelques actionnaires vont s'enrichir. Et donc c'est quand même ça le cœur du sujet.
Donc toi, tu préférais une taxe, taxer les super profits de Total.
Moi, je pense qu'il faut encadrer les super profits, sachant que c'est pas la première crise de la décennie. Depuis 2020, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu la guerre au Moyen-Orient. On n'est pas non plus à la dernière crise de la décennie, désolé de vous le dire. Et donc, il faut que l'Europe, à l'échelle européenne, trouve une règle sur les super profits pour les taxer.
Il y a 5 pays qui demandent d'ailleurs à ce que les super profits soient taxés, comme ça avait été au moment de la guerre en Ukraine. 5 pays européens, l'Espagne, l'Autriche, entre autres pays, j'ai oublié les trois autres. On verra s'ils y parviennent ou pas. Ils sont en une espèce de tournée de sensibilisation. Mais juste un truc, parce que on entendait Sébastien Lecornu, le Premier ministre, parler de réflexe pavlovien. T'es un peu dans le réflexe pavlovien de la taxe, parce que tu parlais de l'actionnariat. Il y a 10% des salariés Total qui sont actionnaires de la boîte aussi. Hein.
Oui, oui.
10% des salariés. Et je regardais, en moyenne, ils arrivent à toucher 10 000 euros de primes versées ou de dividendes. Ça leur fait, et ça peut monter jusqu'à 13 ou 14 000 euros. Ça leur fait, tu vois, largement un 13e mois, voire un 14e mois pour les salariés Total. Donc, si tu veux, le fait que leur entreprise fasse de l'argent, fasse des bénéfices,
je peux pas me réjouir que des salariés s'enrichissent sur le dos d'une guerre où il y a des morts. Et même si c'est pas dans notre pays, je vois pas comment ce système on peut le trouver sain ou on peut le trouver logique. À un moment donné, à chaque fois qu'il y a une crise ou une guerre, les salariés Total s'enrichissent. Est-ce que c'est sain?
Oui, mais là, c'est
comme mécanique économique.
Les automobilistes, pour moi, c'est eux qui profitent du plafonnement des prix.
Oui,
Charles Consigny.
Ah bah, de toute façon, il y a plusieurs systèmes possibles. Je constate en tout cas que la réponse à tout à gauche, c'est toujours la taxe. Hein. On a toujours très très envie de taxer, ça les démange comme un problème de peau, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont là, hein, il faut taxer. Alors surtout si c'est Total, alors là, oulala, Total, c'est vraiment le diable incarné, le grand méchant loup, il faudrait même le nationaliser. Il y en a d'ailleurs certains qui le proposent, de nationaliser la distribution de l'essence, comme
ça. Ça coûterait quelque chose comme 100 milliards. Hein.
Voilà, mais comme ça, on dépense 100 milliards, puis après, on sera tranquille, ce sera géré par l'administration, donc ce sera ouvert.
L'électricité.
Ce sera ouvert du mardi au mercredi, de 15h à 15h30. Et comme ça, on pourra efficacement distribuer l'essence. Moi, je pense que il faut pas non plus permettre n'importe quoi dans notre pays, et notamment je pense que Total doit faire preuve d'un peu de patriotisme vis-à-vis des Français. Il me semble que c'est ce qu'ils font en plafonnant les prix à 1,99. Il se trouve que mécaniquement, quand le cours du pétrole augmente, leur profit augmente parce que ils sont indexés sur le cours du pétrole, mais je trouve que tant qu'ils font le boulot à peu près de préserver le pouvoir d'achat des Français, il n'y a pas besoin de dégainer des taxes, des décrets, parce qu'il y a aussi une manière, il y a un décret qui permet, la loi prévoit la possibilité pour le gouvernement de prendre un décret qui réglemente le prix pour une durée déterminée, limitée dans le temps, en cas vraiment de grosses crises, de gros abus, etc. Donc c'est aussi quelque chose qu'on pourrait faire au lieu de faire une taxe. Moi, ce qui me gêne dans une taxe, au-delà de l'aspect un peu facile, disons, voire un peu idiot, qui consiste à sortir la taxe à tout moment, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de l'argent en réalité?
Ça va être
réfléchi vers les aides aux automobilistes, entre autres, c'est ce qu'on nous dit.
Ça, moi je pense qu'en pratique, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va tomber dans le tonneau des Danaïdes, sachant que, par ailleurs, l'essence est déjà extrêmement taxée. Donc certes, c'est les consommateurs qui paient la taxe sur l'essence, mais c'est déjà extrêmement taxé. Donc on peut pas indéfiniment taxer. Moi, je trouve que, pour l'instant, cette entreprise se comporte tout à fait correctement. D'ailleurs, elle ne le fait pas par philanthropie. Ça l'aide aussi, puisque les gens savent que chez Total, le prix est plafonné, et donc vont plutôt dans ces stations que dans les stations des autres. Mais voilà, je vois pas l'utilité d'aller encore s'embourber dans une
usine à gaz. Pas de taxe. La meilleure stratégie, c'est celle de Total. C'est ce que tu dis, qui plafonne.
Je trouve que pour l'instant, ils font bien le boulot et cette guerre va pas durer indéfiniment. Mais non, tu verras que ce détroit, il va finir par être débloqué. La planète entière, à part l'Iran, a intérêt à ce que ce détroit se débloque. Ils vont finir par le débloquer.
Laura.
Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Charles. Il faut pas oublier aussi que Total est quand même très malin. Ils arrivent à ne pas payer d'impôts de société, vu que en fait, c'est les raffineries qui sont en France principalement, et que le reste des activités se passe à l'étranger. Pourquoi ? Parce que la France est un des pays les plus taxés. Donc en fait, l'an dernier, ils ont fait, je crois, moins 300 millions ou milliards, ce qui fait qu'ils n'ont pas été imposés. Donc au final, la taxe, il n'y en aura pas, puisque les super profits et les bénéfices de Total ne se font pas principalement en France. Donc encore une fois, c'est une fausse bonne idée. Le cornu pointe quelqu'un d'autre du doigt pour encore une fois se dédouaner. Et puis pardon, Flora, je veux dire, quand il y a une catastrophe naturelle, tu le parlais tout à l'heure, on va pas taxer les sociétés de BTP parce qu'elles ont reconstruit des maisons. On va pas leur reprocher le fait de alors que c'est triste et c'est horrible ce qui se passe pour les gens qui ont la maison détruite, mais tu vas pas aller taxer une société de BTP parce qu'elle a six chantiers. Je finis mon propos, s'il te plaît. Tu vas pas faire ça. Maintenant, Total est une société privée qui a fait un coup de marketing et de prévoir. Enfin, je veux dire, on va quand même pas reprocher à Total de réussir à prévoir quelque chose qui va arriver. Tout le monde savait que ça allait péter en Iran. Total a acheté les barils avant que ça pète. Ils ont été d'une intelligence remarquable. Maintenant, il y a aucune loi qui les oblige à plafonner les prix. Ils le font parce que justement, ils se sentent à minima préoccupés.
Avec une consommation d'essence qui baisse, d'ailleurs.
Avec une consommation d'essence qui baisse. Donc, je veux dire, on va quand même pas leur reprocher. Enfin, personne n'a sauté sur EDF quand les prix de l'électricité ont explosé. On n'a pas demandé à EDF de plafonner les prix. Ben non, EDF est détenu quasiment en totalité par le pays. Donc, encore une fois, on demande au privé de faire le truc, enlever cette foutue...
Ces deux œufs, cette foutue contribution à l'écologie.
Mais c'est ça, il y en a marre de l'écologie punitive. En fait, là, on en met de l'écologie partout. Ce qui fait qu'en fait, les gens sont asphyxiés en permanence.
Alors, Flora,
si on nous lâchait un petit peu, les gens seraient déjà plus...
Alors, deux choses. La première, c'est grâce à la transition écologique qu'on va pouvoir s'émanciper de notre dépendance au pétrole et donc arrêter d'être vulnérable à la moindre crise qui se passe à Hormuz, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, et qui répercute...
Je ne te parle pas de la supprimer définitivement. Tu l'enlèves là.
Oui, je vais juste te répondre. Qui se répercute sur nous à la pompe, très concrètement. La deuxième chose, pour reprendre ton exemple, sur le BTP et les salariés du BTP qui auraient à reconstruire une catastrophe naturelle. Le problème, c'est pas les salariés du BTP ou les salariés de Total, ni l'entreprise de BTP ou l'entreprise Total. Le problème, c'est qu'on a un système économique qui est que il y a des gens qui gagnent au loto quand il y a une crise ou une guerre. Est-ce que vous trouvez que c'est un système économique qui est sain ? Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de s'émanciper de notre dépendance au pétrole et au gaz, puisque c'est qui produit le pétrole et le gaz ? C'est la Russie, c'est l'Iran, c'est des pays avec lesquels on n'est pas très amis. Desquels on n'est pas très content de dépendre. Parce qu'au-delà des guerres, il y a aussi les pandémies mondiales, il y a aussi les crises. Et donc, il peut y avoir plein de raisons sur
mais tu vois,
mais du coup, c'est quoi
voilà, pour pousser ton raisonnement. Et tu as raison, il faut essayer de s'affranchir des énergies fossiles. S'affranchir des énergies fossiles, ça veut dire être quoi? Sur le nucléaire, sur l'électrique, l'hydroélectrique ou l'éolien. Mais si tu veux sur l'électrique et le nucléaire, on va avoir besoin aussi d'uranium, on va avoir besoin de lithium, on va avoir besoin
de... On est en train d'ouvrir des mines de lithium en ce moment, on est en train de développer.
Justement, donc ça aussi, il va falloir aller creuser dans des pays qui sont pas forcément des pays amis pour en avoir pour les batteries électriques. Là, on va en avoir, je crois que c'est du côté de l'Ariège, mais il y a des associations qui n'en veulent pas.
Il y a le Shift Project qui a sorti un rapport la semaine dernière.
On sera forcément dépendant d'un pays qui va nous accorder les droits de creuser.
C'est comme si tu prends l'exemple de la voiture thermique et de la voiture électrique. Il y a des gens qui diraient, oui, enfin, la voiture thermique, c'est pas une solution idéale parce qu'on a besoin d'une batterie en lithium, etc. C'est vrai. Il n'empêche que toutes les études montrent que l'impact global d'une voiture électrique est 9 fois inférieur à celui d'une voiture thermique. Donc, dans la vie, dans ce cas, on respire plus parce que respirer, ça fait émettre du CO2, tu vois.
Mais pour passer à l'électrique,
il faut des centrales nucléaires.
Mais moi, j'ai toujours été.
Les écolos, ces dernières années, ils n'étaient pas très pro-nucléaires.
Et alors, moi, je ne suis pas chez Europe Écologie Les Verts et j'ai toujours défendu la même ligne.
Les super bassines pour refroidir les réacteurs.
Et figure-toi que chez Europe Écologie Gilets Verts, il y a au moins 50% du parti qui est pro-nucléaire aujourd'hui.
On va avoir tous les écologistes qui vont être vent debout quand on va commencer à creuser pour le lithium. Et puis, encore une fois, je te mets ma main à couper, qu'une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, etc., qu'on sera, on sera dépendant d'autres choses, eh ben, tu auras exactement le même système économique qui va se mettre sur le lithium, sur l'électricité. Et malheureusement.
Déjà... Avec des si on mettrait Paris en bouteille, là, dans les faits.
On a besoin de ces sociétés On a besoin de ces sociétés qui font des recherches, qui font de l'exploitation, qui font de l'extraction.
Oui, enfin, Total Energy, regarde leur rapport d'hier, ils bloquent les prix à la pompe parce qu'ils sont en train de se gaver sur la raffinerie et c'est leur droit.
Sur le gaz naturel liquéfié aussi.
L'État français est en train de se gaver sur une guerre, sur une taxe qui n'était même pas prévue au budget et pourtant ils ne bougent pas d'une oreille. Donc, pardon, mais l'État français est exactement le même profiteur de guerre que Total.
Instant, on verra avec Jérôme. Jérôme, il est du côté de l'Essonne. Jérôme, il est pâtissier. Est-ce qu'au finalement, c'est Total qui a la meilleure stratégie, continuer de plafonner les prix, plafonner plutôt que taxer Total. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. Il est 9h15, vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On continue la discussion, on continue le débat bien sûr autour de ce prix de l'essence qui continue de monter, prix de l'essence avec Total qui décide de plafonner. Voilà ce que dit Total dit la redistribution de nos profits, bah c'est via le plafonnement des prix. Quelle est notre stratégie, voilà quelle est notre tactique. Alors la redistribution, plafonner les prix, plafonner c'est mieux que taxer ou c'est mieux que bloquer les prix, parce que ça c'est aussi ce que veut faire la France Insoumise. Jérôme va en discuter avec nous, il est du côté de l'Essonne. Bonjour Jérôme.
Oui, bonjour les grandes gueules, comment ça va ce matin?
Ça va Jérôme, vous êtes passé à la pompe ou pas Jérôme? Pas encore?
Non, moi je suis boulot GPL, donc ça va pour l'instant encore, je suis bien.
D'accord. Hein,
je suis encore à 1 euro du litre.
Ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce qu'il faut taxer Total ou on laisse continuer de plafonner et c'est la meilleure stratégie?
Pour moi, la meilleure stratégie, c'est de plafonner. C'est en France, en fait, les gens de gauche ont une aversion, comme vous avez dit, contre les gens qui réussissent, contre les gens qui gagnent de l'argent. Je prends un exemple. Demain, Carrefour implante, par exemple, 1000 magasins en Chine, dégage 5 milliards de bénéfices, on va les taxer. Pourtant, ce sera de l'argent qui viendra de Chine. En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Vous prenez quelqu'un de gauche comme M. Hollande, qui gagne par exemple 1 million d'euros au loto, je ne pense pas qu'il va les redistribuer à la France. En fait, c'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'en France, c'est beaucoup de gens sont...
Donc déjà, c'est exonéré si c'est du gain de jeu, déjà, sachez-le. Admettons qu'il les place, il sera taxé sur son placement. Mais là, on s'éloigne un peu.
Ce que vous pointez du doigt,
c'est plus le réflexe taxe de la gauche aujourd'hui, quoi, c'est ça?
C'est ça, c'est tout le temps, faut taxer. Et en fait, et après, ils sont là, ils disent, oui, mais il faut aider les gens. Oui, mais il faut redistribuer en donnant aux plus pauvres. Oui, mais il faut redonner. Moi, je suis désolé, Total, il redonne en redonnant à ses employés qui vont, par exemple, investir l'argent. Par exemple, le gars, il va toucher une prime de 10 000 euros. Il va refaire sa salle de bain. Ça va faire travailler des petits employés français. En plus, donc l'argent, il est réintroduit dans le système.
Donc, laissons Total gagner de l'argent et le redistribuer à ses actionnaires. Total qui investit aussi. Oui, bien sûr. 10% des salariés Total sont actionnaires de la boîte. Donc, aujourd'hui...
C'est ce que
j'ai dit tout à l'heure, ils touchent en moyenne 10 à 12 000 euros, c'est ce qu'ils ont touché en 2025, les salariés Total.
Ouais. Donc en fait, si ces gens-là, pour Mme Guevalli, je veux dire, si ces gens-là font en sorte, par exemple, d'installer des panneaux solaires sur leur toit, ça fait marcher aussi l'écologie. Vous voyez ce que je veux dire?
Le problème, c'est pas les salariés...
Alors attendez Jérôme, que Flora vous réponde.
Le problème, Jérôme, c'est pas les salariés qui vont toucher 10 000 euros. Le problème, c'est les actionnaires qui sont parfois pas français du tout. D'ailleurs, je crois pas. Je crois que la majorité des actionnaires est français. Je crois pas les actionnaires qui sont pas du tout français, qui ont des actions dans plein d'entreprises, sont juste en train de s'enrichir et d'enrichir un capital.
Ah oui, c'est
aujourd'hui
d'une société privée. T'es d'accord?
Oui, mais c'est pas des gens qui vont refaire leur salle de bain. C'est des gens qui ont des actions et qui vont juste enrichir leur patrimoine financier et qui vont avec ça. réinvestir dans d'autres actions.
Oui, mais ils consomment
donc,
aussi.
Oui, ils, enfin, non,
et ils sont taxés sur ces actions, sur ces dividendes.
C'est exactement comme ça que les inégalités ont explosé ces 20 dernières années.
Mais regarde, Flora.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a 90% des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois ou à s'épanouir, VS 10%, voire 0,1% des gens qui ont des actions partout et qui sont aujourd'hui des ultra-riches. Donc, ce n'est pas un réflexe de vouloir taxer. C'est juste le système produit de l'inégalité en masse. Donc, si ce n'est pas le rôle du politique de faire un peu baisser ces inégalités, c'est le rôle de qui ?
Prenons l'exemple. Ok, on taxe. D'accord, on taxe Total. Derrière, tu fais quoi de cette taxe ? Comment tu fais en sorte
Total va augmenter ses prix pour pallier la taxe ?
Comment est-ce que tu fais en sorte que justement, quand tu passes à la pompe, ce soit moins cher ? Comment tu aides le consommateur ?
Mais tu l'auras pas. Il a raison, Charles. Ça va tomber dans un tonneau qu'on n'en verra jamais la couleur.
Comment tu flèches la taxe ?
On n'en verra jamais la couleur.
Non mais sur la taxe, déjà tu
prends 1 milliard à Total. Tu fais quoi ?
Bah rien.
Bah si, tu finances la transition écologique, tu
mais
finances...
Mais c'est pas ça qu'ils veulent les gens
c'est pas vrai.
Les gens ils veulent payer moins cher à la pompe là tout de suite,
Flora.
Parce
que par exemple les aides sur les voitures électriques...
Mais c'est pas possible, mais tu vis dans un monde parallèle. Les gens là aujourd'hui, ils s'en foutent de financer la transition écologique. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir aller travailler. Là, moi je l'ai dit dès le début de la guerre, il faut tout de suite que l'État prenne ses responsabilités, qu'il enlève cette taxe sur la transition écologique et qu'on baisse la TVA. Je l'avais dit, il y a des boîtes qui vont fermer. Et qu'est-ce qui se passe au 1er janvier ? Au 1er janvier, à maintenant, on devait être à plus de 2% de croissance. Au final, on est à zéro. Il y a déjà des boîtes qui ont fermé et il y a des gens qui se retrouvent sur le carreau. Là, tout de suite maintenant, moi ma priorité, si demain je suis au gouvernement, c'est pas de financer des éoliennes, c'est de pouvoir faire en sorte que mes concitoyens ils puissent aller qu'ils puissent aller partir en vacances au 1er mai.
Dans le monde magique.
C'est pas dans un monde magique.
Dans le
c'est
monde
dans
magique
un monde,
de Laura, les Français sont toujours plus pauvres et les entreprises sont toujours plus riches.
Toi, tu finances là tout de suite maintenant, tu vas financer des voitures chinoises et des éoliennes. Moi, je vais financer des Français qui vont pouvoir consommer, qui vont pouvoir aller voir leur famille, qui vont pouvoir faire marcher le tourisme français, qui vont pouvoir donner à manger à leurs gamins, par exemple, et qu'une infirmière libérale arrête de sélectionner. Et qu'une infirmière libérale.
Laisse répondre aussi Flora.
Avec cette phrase-là, et qu'une infirmière libérale arrête de choisir ses patients et puisse continuer à les soigner tout le monde. Je pense que là, tout de suite, c'est la priorité plus que la transition écologique.
Flora.
Pour une sophrologue, tu respires pas beaucoup.
Hein. Bah si, c'est parce que j'ai beaucoup de souffle.
Je pensais que c'était ton. Ah oui, t'as beaucoup de souffle. Du coup, c'est pas mal. Faudrait que tu m'apprennes. Ça donne un long débit.
Vas-y.
La solution du monde magique de Laura, c'est un peu le même monde magique que Jordan Bardella. Jordan Bardella, il a dit hier, faut-il taxer les super profits ? Non. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Enfin, demandez aux socialistes. Je cite sa réponse.
Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Moi, je t'ai donné une réponse claire et nette et qui vient de chez moi.
Attends, elle finit.
Donc, le monde de Jordan Bardella, il est magique. Il dit non, enfin, je sais pas, enfin, peut-être, enfin, demandez aux socialistes. Le monde de Laura, il est tout aussi magique parce qu'elle dit l'État arrête de taxer, mais Total continue à se gaver. Dans le monde où l'État arrête de taxer et Total continue à se gaver, les Français sont toujours plus pauvres et les entreprises privées et leurs quelques actionnaires sont toujours plus riches. Dans un monde où il y a, enfin, on parle quand même d'une époque où il y a 15% des Français qui n'ont pas à manger jusqu'à la fin du mois. C'est ça dont on parle. Ok, le prix à la pompe, c'est un problème majeur, notamment pour les personnes qui ont besoin d'essence pour aller travailler, mais on parle d'un pays où l'appauvrissement augmente en masse.
Et où il y a une crise économique qui empêche les gens de s'enrichir, je comprends pas.
Et où l'économie est en berne. Pourquoi ça empêche les gens de s'enrichir? Je vais te répondre. Parce qu'il n'y a plus de redistribution. Parce qu'il n'y a pas de redistribution. Parce qu'il y a des actionnaires qui n'habitent pas en France, qui sont en train de se gaver sur une guerre où il y a des gens qui meurent.
Il y a des salariés Total.
Oui, il y a des salariés Total, mais c'est marginal. C'est comme si tu dis.
Là, en l'occurrence, qui est-ce qui aide les gens à faire le prix à la pompe? C'est Total.
Les journalistes, il y a 3 journalistes et demi qui gagnent bien leur vie, donc les journalistes gagnent bien leur vie. C'est pas vrai. Tu peux pas faire une généralité à partir de 10 000 salariés.
Non, mais là, qui aide les Français depuis le début du conflit? Qui aide la guerre?
100 000 personnes dans le monde. Total investit. Total, aujourd'hui, investit, je crois, à peu près 10 milliards chaque année. C'est le 4e champion mondial des énergies. Dans le gaz et dans le pétrole.
Si
tu affaiblis Total, tu vas faire l'affaire des autres géants internationaux.
On entend des auditeurs.
C'est pas devenir un défenseur absolu de Total, mais de dire que quand on a un champion, effectivement, c'est un temps de guerre. C'est pas Total qui a décidé de la guerre. C'est pas Total qui a décidé du blocage. Total, aujourd'hui, fait des bénéfices à une stratégie de dire avant la guerre, j'achète des stocks. Coup de bol, c'est ce qui s'appelle la spéculation. Et bravo, les stocks se sont envolés. Et derrière, ça va leur permettre permettre de réinvestir ailleurs, de trouver de nouveaux forages. Ça va leur permettre de forer, de raffiner et ensuite de distribuer.
Et puis,
Total sera affaibli. À un moment, il y a un géant américain ou saoudien qui va lever le doigt en disant Total, c'est pour nous. Et on n'aura plus de champions français.
Oui, donc en fait, depuis le début de la guerre, c'est Total, c'est pas l'État.
Attention.
Dans ta logique, Alain, si on met la moindre norme et la moindre règle à quiconque, les gens vont partir dans d'autres pays.
C'est le blocage.
Moi, je défends la souveraineté européenne parce que on a besoin d'avoir des géants européens et on a besoin, on a besoin de créer nos propres règles et de peser sur le marché et sur les règles du jeu. Non, on les a pas les règles puisque aujourd'hui, les grandes entreprises, elles s'affranchissent de toutes nos règles. Donc, nous,
Charles Consigny, puis ensuite, on va au 32-16 retrouver Rodolphe dans le Morbihan.
Flora n'a pas tort sur l'effet boule de neige des riches. C'est vrai que plus vous êtes riche, plus vous êtes riche. Je sais pas si vous avez vu cet excellent film qui s'appelait Ah si j'étais riche, où justement Jean-Pierre Darroussin gagne au loto et il s'aperçoit qu'il dépense énormément d'argent, il va voir son banquier. Son banquier lui explique qu'il a gagné de l'argent durant les 15 derniers jours alors qu'il n'a fait que dépenser, donc il comprend pas. Effectivement, le banquier lui explique que quand on est riche, on est indéfiniment de plus en plus riche. Et Darroussin lui pose la question, il dit ah bon, mais alors quand on est riche ça ne s'arrête jamais? C'est un ancien pauvre, il vient de gagner au loto, et le banquier, qu'on imagine banquier d'une banque privée, répond, rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Et après, il s'excuse d'avoir fait une mauvaise blague parce que Darroussin le prend mal. Ça, c'est vrai que ça existe. Mais en même temps, les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise. Donc ce sont eux qui décident de ce qu'on fait avec l'argent de l'entreprise. S'ils se distribuent trop d'argent à eux-mêmes, ils mettent en péril l'entreprise aussi. Donc ils sont obligés, malgré tout, dans leur grande vénalité, leur grande voracité, ils sont obligés de garder un certain équilibre entre l'investissement, les salaires et ce qu'ils se mettent dans la poche en tant que propriétaire de l'entreprise. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est à développer beaucoup plus. Et là, pourquoi pas en passer par... la loi, le débat politique, etc., c'est l'actionnariat des salariés.
Oui,
je trouve que c'est extrêmement insuffisant le nombre de salariés français. C'est vraiment... ça existe un petit peu, mais on est quand même au stade de l'esquisse aujourd'hui de la chose. Moi, je trouve que ce serait vraiment un truc à développer parce que, d'abord, ça mettrait une meilleure ambiance dans les boîtes. Ensuite, ça augmenterait le salaire des Français, des salariés, et à la fin, ça bénéficierait à tout le monde. Ça, c'est un truc à développer. Mais en revanche, aller sur des usines à gaz fiscales qui n'ont jamais vraiment montré leur efficacité.
La France Insoumise propose le blocage des prix. Ils font signer une pétition pour demander le blocage des prix.
Si Total ne faisait pas ce qu'ils font en ce moment de bloquer à 1,99, moi je demanderais aussi le blocage des prix. Je serais pour ce décret de blocage des prix. Il faut quand même, on demande un peu de patriotisme.
Mais si tu bloques les prix, à quel niveau tu les bloques? Ils disent à 1,70. Tu bloques, c'est ce que veut la CGT et la France Insoumise. Tu bloque les prix à 1,70, les pétroliers qui nous vendent, ils disent, monsieur, c'est le marché, on vous vend plus de pétrole.
On n'est pas obligé de le mettre à 1,70, c'est s'il y avait un essai.
Mais Alain,
on aura un risque de pénurie, et c'est normal, c'est du business aujourd'hui.
On est en train d'avoir un débat passionnant et très important. La question qui est posée, sous-jacente, c'est est-ce que c'est les entreprises qui gouvernent ou est-ce que c'est les États qui gouvernent? Et là, Alain, ce que tu es en train de dire, c'est si les États sont pas d'accord, bon, les entreprises vont se barrer, donc finalement, les entreprises sont supérieures aux États et c'est les entreprises qui gouvernent. Et c'est exactement ça qui est complètement fou dans notre société. Total gouverne l'accès au pétrole des Français. Total gouverne l'accès au pétrole des Français.
Il n'y a pas que Total.
La question que pose Alain, c'est est-ce que c'est les entreprises qui nous gouvernent ou est-ce que c'est l'État? Et moi, je suis pour que ce soit les États-nations qui prennent les décisions et notamment les décisions qui relèvent de notre vie ou de notre mort.
Mais dans les pays où c'est l'État qui distribue l'essence, comme on a vu en Amérique du Sud, etc., quelle est la conséquence quasi systématique? C'est quand même les pénuries d'essence. Les concurrentes Total sont plus chères que Total aujourd'hui.
Rodolphe et Fabrice avec nous. Rodolphe du côté du Morbihan. Bonjour Rodolphe.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Comment va Rodolphe? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement plafonner c'est mieux que taxer?
Ah mais j'entends des choses, c'est lunaire. Sincèrement, je suis artisan dans le bâtiment, donc on parle beaucoup des professions libérales, mais on parle pas trop du bâtiment, et pourtant nous on est impacté doublement parce qu'on est impacté aussi par les matières premières, les métaux, le bois qui sont transportés par cargo, donc par la mer, donc ils ont des grosses dépenses de carburant. J'entends Flora Gebali, moi je veux pas tirer à boulet rouge sur Flora parce que bon elle a ses idées, mais nous on milite par exemple pour toutes les constructions neuves de maisons d'instaurer des panneaux solaires systématiquement. L'État il bloque, tout le monde bloque. Les écologistes, les premiers, sont pas d'accord. Ça, c'est une parenthèse. Ensuite, il faut pas bloquer les prix. Deuxièmement, je voulais vous dire aussi, Total est déficitaire en France. Total ne gagne pas d'argent en France. Donc, on peut pas demander à Total en permanence de faire des cadeaux aux Français. Les cadeaux qu'ils nous font actuellement à la pompe, ce sont de l'argent qu'ils ont gagné ailleurs, sur le marché international. C'est pas de l'argent qu'ils gagnent en France. Donc, on est content d'en bénéficier. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui se défausse sur les distributeurs, qui se défausse sur tout le monde parce que on est gouverné par des incompétents qui sont incapables de voir ce qui se passe et surtout de prévoir. On demande, nous, les artisans, de baisser les taxes. Moi, sur le camion, je suis passé à un plein de 135 euros à 207 euros. Est-ce que c'est normal? Alors que nous, on paye de la TVA.
Et vous pouvez pas le répercuter sur vos prix en plus parce que vous serez plus compétitif.
Ben non, parce qu'on est plus compétitif derrière, Alain. Mais aujourd'hui, le gouvernement, quand ils entrent, tous les jours, entre la Maud Bréjon, le Cornu, le ministre de l'économie, n'importe quoi, ils racontent tous n'importe quoi. Aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE viennent de tomber. La croissance, elle est en baisse. Oui. La consommation, elle est en chute libre. Mais pourquoi?
L'inflation augmente à cause de la hausse des prix de l'énergie.
On est assommé de taxes.
C'est tout ce que j'avais dit.
En baissant les taxes, on va de facto augmenter la consommation. Les gens vont leur redonner de l'air. Et ça va de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il y a plus de TVA qui rentre dans les caisses de l'État. Sauf que ce gouvernement, il gouverne à la petite semaine. Ils savent pas trop où ils vont. Ils sont même pas conscients de
ce qui se passe. On n'en est pas sûr, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez dire mécaniquement, si vous baissez les taxes, vous redonnez le pouvoir d'achat, et mécaniquement, vous allez relancer la consommation, on n'en est pas sûr. Vous pouvez très bien dire aussi, je vais en profiter pour mettre de l'argent de côté consommer. Et puis, qu'est-ce que vous consommez si vous consommez du manufacturé chinois plutôt que de faire tourner les artisans français, vous comprenez?
Aujourd'hui, c'est très mauvais ce qui se passe. Aujourd'hui, on le sait très bien, tous les économistes le disent, que ce soit de gauche, de droite, on sait très bien que dès que l'argent il est placé, il est coffré, ça veut dire qu'il y a un problème de fiscalité en France, c'est un problème d'économie. C'est-à-dire qu'il faut tout faire, il faut faire complètement l'inverse. Il faut que les gens consomment, il faut que les gens dépensent.
L'épargne française est quasiment la plus importante d'Europe, à 6 000 milliards. Rodolphe veut qu'on baisse les taxes.
Pourquoi aujourd'hui tous les pays européens, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Espagne, ils arrivent à baisser un peu les taxes? On ne demande pas à l'État de faire un cadeau de 50 centimes à la pompe.
Parce que nous, on dépense trop d'argent. Voilà. Est-ce que vous avez demandé votre aide au déménagement, Rodolphe? Vous avez déménagé récemment? Vous savez que l'État vous propose une aide au déménagement. Et ils ont fait même la promotion sur les réseaux sociaux. Vous devriez vous inscrire.
Charles, écoutez, moi c'est simple. Moi je vais vous dire honnêtement. Aujourd'hui, moi je suis artisan. Moi, j'attends 2027 qui va se passer. Et si jamais ça se passe, on est encore avec des promesses et on va être encore gouverné par des peintres. Excusez-moi, mais moi je pars.
Vous partez où ?
C'est plus possible. Mais moi je vais partir. Je pense que ça va être d'autre côté de l'Atlantique. Hein, ça va être certainement le Canada parce que ils ont une fiscalité qui est pas pareille. Alors la vie est plus chère, mais
ils ont un accent qui est quand même particulier.
Et puis vous allez devoir écouter Céline Dion tout le temps.
Je savais. Vous ne touchez pas à Céline.
On touche pas à Céline. Rodolphe, le coup de gueule du jour
au Canada.
Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est vous qui allez conclure là. Qui avait conclu la discussion, Rodolphe? À bientôt. C'est un fidèle des GG. Plafonner les prix, c'est mieux que taxer. C'est Total qui a raison. On va voir ce que vous en pensez. Oui ou non? Le débat a été animé dans les GG. Dans les grandes gueules. Plafonner, c'est mieux taxé. 76% de oui contre 24%. Allez, dans un instant, le on s'en fout, on s'en fout pas. Restez avec les GG. Il est 10h-20 en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC. Ici, vous ratez les grandes gueules. Vous savez que tout au long de la semaine, puisque ce sont les vacances, vous pouvez très bien avoir autre chose à faire. Vous avez les podcasts à votre disposition. Les podcasts, c'est sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. C'est YouTube. Toute l'émission, plus les. C'est sur YouTube aussi, tu as raison, Anaïs. Vous retrouvez aussi les extraits sur Instagram.
Snapchat aussi.
Et vous avez les extraits et vous avez les off de l'émission, les petites discussions pendant la pub. Laura Barton Martinez, Charles Consigny, Flora Guevalli, tout est assez dissipé aujourd'hui. Mais enfin bon, c'est la bonne humeur aussi dans les GG, dans les
grandes filles. C'est le week-end.
Allez, ça y est.
Combien? 1, 2, 3. On est en minorité.
Alors, c'est la première fois de l'histoire des GG. Une première en 20 ans. Il y a plus de femmes que d'hommes sur le plateau.
Allez, c'est parti pour le on s'en fout.
22 ans.
RMC, les grandes gueules. On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour Alain, bonjour les GG, bonjour à tous. Éric Ciotti veut une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora?
On s'en fout pas.
Laura.
On s'en fout pas.
Charles.
On s'en fout pas.
Le président de l'UDR veut la vérité sur les chiffres et souhaite remettre à l'ordre du jour le lancement de cette commission à l'Assemblée. Il souhaitait déjà la lancer en juin dernier, hein, mais il avait préféré finalement utiliser son droit de tirage pour lancer la commission sur le financement de l'audiovisuel public. Flora, pourquoi tu t'en fous pas ?
Parce que une commission d'enquête, c'est un objet qui est défini par la Constitution. Donc la Constitution permet à l'Assemblée nationale de faire des commissions d'enquête quand elle a besoin d'éléments d'information sur un sujet. Sur l'audiovisuel public, Éric Ciotti, on doit le reconnaître, a fait un gros coup, puisqu'il y avait plein d'informations qui n'étaient pas connues du grand public, qui n'étaient pas transparentes. Or, sur la question de l'immigration, toutes les informations et toutes les données sont publiques. Elles sont disponibles sur le site de l'INSEE, elles sont disponibles dans les rapports de la Cour des comptes, elles sont disponibles d'après les différents organismes qui régulent et qui organisent l'immigration. Et donc, ce que fait Éric Ciotti ici, c'est tout simplement une tentative de buzz après le succès de sa commission d'enquête sur l'audiovisuel. Et donc, c'est la preuve que ces personnes-là ne sont pas là pour gouverner, mais pour faire du buzz et utiliser des organes constitutionnels à des fins politique, ce qui pour moi est bafouer le droit et les qualifie immédiatement comme un parti populiste et non respectable.
Charles.
Non, Éric Ciotti fait bien sûr de la politique, il en fait tout le temps. Néanmoins, il y a un débat permanent sur la question de savoir si l'immigration coûte ou rapporte à la France. Et selon les partis politiques, selon les orientations politiques des uns et des autres, y compris des chercheurs, on n'est jamais d'accord.
Selon les think tanks.
Donc, pourquoi pas faire une commission d'enquête, si elle est de bonne tenue, si elle est dirigée par des gens, conduite par des gens qui essayent de faire la vérité. Moi, je pense que c'est pas inintéressant.
Laura. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. J'ai envie que quand tu écoutes des politiques de gauche, l'immigration, c'est génial sur tous les aspects. Et quand tu écoutes des politiques de droite, tous les problèmes et tous les maux de la société viennent de l'immigration. Il serait justement intéressant, alors, dans mon idée, pourquoi pas un rapporteur socialiste, un rapporteur de gauche, qui du coup pourrait contrebalancer les charges qui risqueraient d'arriver de la droite pour éviter une espèce de coalition.
Donc pas par l'UDR alors.
Oui. Ouais, tu penses qu'Éric Ciotti, c'est la bonne personne pour apporter de la nuance sur le sujet de l'immigration ?
Ben non, justement, je viens de te dire que moi, je serais pour un rapporteur de gauche, justement, pour...
Un président de commission de l'UDR et un rapporteur de gauche,
voilà.
À ce moment-là.
Pourquoi je veux pas. Dire pourquoi, mais... pourquoi j'estime que la commission sur l'audiovisuel a fonctionné, c'est parce qu'on avait quelqu'un qui était pas contre, parce qu'il était...
Patrick Lettus, le président, oui.
Voilà, il n'était pas contre la fermeture, mais voilà, on n'y était pas ultra favorable, on savait qu'il y avait quelque chose.
Ensuite, il y a Charles Lalonde, mais c'est Charles Lalonde qui a été accusé d'instrumentalisation. Après, il ne faut pas être dupe, parce que là, l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, a utilisé, tu sais, ce qu'on appelle le droit de tirage, c'est-à-dire de la création de la commission. Là, il l'a utilisé pour cette commission sur l'audiovisuel public. Donc, il pourrait de nouveau l'utiliser en septembre prochain. En septembre prochain.
Ça pourrait permettre de bien pour une fois pour toutes classer.
Oui, mais
classer
à 6 mois, à 8 mois de l'élection présidentielle, tu vois tout de suite que cette commission sur les chiffres de l'immigration, le coût de l'immigration, elle sera rapidement instrumentalisée, sujet à polémique.
Ça dépend qui l'a
interprétation,
conduit.
Tu vois. Et bon, est-ce que ce sera le bon moment ou pas?
Moi, je peux dire qu'on peut peut-être faire confiance de temps en temps.
Alors, ça coûterait 40 milliards aujourd'hui, le coût de l'immigration, 40 milliards.
On pourrait faire quand même confiance de temps en temps, non pas à nos politiques, mais à nos outils constitutionnels et démocratiques.
Mais qui peut croire que Éric Ciotti va être mesuré en apportant le sujet de l'immigration sur la table?
Moi, je soutiens cette idée quand même.
Ouais, moi aussi.
On verra au mois de septembre prochain si c'est fait. Anaïs.
Jean-Luc Mélenchon a l'esprit de famille, les GG. C'est ce que titre en tout cas le Canard Enchaîné dans un article publié hier. Article dans lequel on apprend que le patron de LFI a placé sa fille au siège de son parti. Elle est chargée du suivi des élus insoumis alors qu'elle n'exerce aucun mandat national, selon le Canard. Et le gendre de Jean-Luc Mélenchon s'était vu aussi en 2022 parachuter dans la 6e circonscription du Rhône où il a été élu député sous l'étiquette NFP. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On ne s'en fout pas.
Laura ?
On ne s'en fout pas.
Flora ?
Je m'en fous.
Charles ?
Non, je ne trouve pas ça gravissime, mais je pense que les enfants des hommes et femmes politiques, à mon sens, feraient mieux de s'abstenir de faire le même métier que leurs parents. Pardon ?
Les pauvres, s'ils ont envie.
Bah non, en tout cas,
tout le monde doit être libre sauf les enfants des politiques.
En tout cas, dans l'ensemble, je pense que les gens ne gagnent pas souvent à faire le même métier que leurs parents parce qu'ils sont indéfiniment accusés d'être pistonnés. Et souvent ils le sont d'ailleurs en pratique. Donc je pense qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir. Après, je pense pas que ça arrive aussi de travailler en famille sans que ce soit forcément un crime gravissime.
Oui, moi je trouve que c'est un peu un non-sujet, enfin rien de nouveau sous le soleil. Hein,
De faire travailler ses proches.
Je veux dire, on a tous fait essayer de faire rentrer un cousin, une cousine, une sœur, un mari dans une boîte parce qu'on y connaît quelqu'un. Je vois pas pourquoi il y aurait une loi qui interdirait aux élus politiques de placer des gens de leur famille.
Après, où il faut faire attention, c'est le népotisme et l'oligarchie, c'est-à-dire que quand tout un parti ou autre appartient au même clan ou aux mêmes personnes.
Mais regarde chez les Le Pen.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, bien sûr.
On a fait
la politique. En même temps, c'est aussi un milieu dans lequel ils ont baigné. Donc, tu peux très bien avoir cette envie de continuer de faire de la politique,
de
t'investir là-dedans,
aussi,
parce que ça t'a plu, parce que t'as baigné là-dedans aussi, quoi, tu vois.
Donc, et qui vous dit qu'elle n'est pas compétente?
Le biopic consacré à Michael Jackson cartonne en France. Déjà 1 360 000 spectateurs dans les salles une semaine seulement après sa sortie. Et malgré les polémiques, on s'en fout ou pas, Charles?
On s'en fout.
Laura?
On s'en fout pas.
Et Flora?
Je m'en fous.
Deuxième meilleur démarrage de l'année, mais film très critiqué parce qu'il passe sous silence les accusations de pédocriminalité et les violences qu'a subi aussi Michael Jackson, petit Laurent.
Oui, moi c'est ça qui me pose un problème. En fait, la famille a mis énormément de veto sur ce biopic pour que justement l'image de la famille ne soit pas complètement entachée. Ce qu'il faut bien penser, c'est que au-delà du monument que Michael Jackson a été, ça a quand même été un enfant qui a été exploité par sa famille, qui a été battu, qui a été violé pendant des années. On a une dysmorphophobie chez ce petit garçon qui s'est mutilé jusqu'à en mourir pour ne pas ressembler à son propre père. Et en fait, moi je trouve que ce qu'il y a de fascinant dans tous ces génies, qu'on parle d'Amy Winehouse, qu'on parle de Freddie Mercury, quand on parle d'Elton John, quand
là
on
il n'avait rien éludé.
Quand on parle
sur Mercury et sur Elton John, justement tous les travers, tout avait été mis en avant dans les films.
Ce qu'on aime, moi ce que j'aime, c'est que je sais que tous ces gens-là, ce sont des extraterrestres, ce sont des gens qui ont eu une vie qui n'a rien à voir avec le commun des mortels. Et j'aurais aimé, qu'on rentre vraiment dans le sujet. J'ai juste l'impression d'aller voir, peut-être que c'est bien, mais un concert de Michael Jackson où c'est
mais
pas
tu
Michael
tu vas aller
Jackson.
Le voir du coup ou pas?
Non, je vais attendre qu'il sorte et que je le regarderai dans mon canapé. Parce que, en fait, tu vas voir un concert de Michael Jackson où c'est pas Michael Jackson qui chante.
Mais justement, qui était fan de Michael Jackson ici? Flora? Non? Charles?
Gentiment.
Laura?
Non, j'aime bien, mais je peux pas dire, c'est pas ma génération.
Mais c'est vrai qu'il a pas l'héritage qu'il aurait pu avoir du fait des affaires, puisqu'elles ont pas été élucidées. Et moi, ça me dérange pas qu'on sépare l'œuvre de l'artiste. En revanche, ça veut pas dire qu'il faut pas regarder ce qui s'est passé.
Moi, un biopic
qui montre ses parts de génie et ses parts d'ombre, ça m'aurait intéressé. Là, ce que j'en lis dans la presse, c'est que on voit juste un super génie qui chante et qui danse bien. C'est pas.
Tiens, justement, petit quiz. Quel est ce morceau? On y va. Pas difficile à reconnaître, effectivement. Bravo la production.
C'est Louis
deuxième. Quand même. Vous connaissez bien votre Michael Jackson. Ouais, c'est lead, c'est pas compliqué. On en a un petit troisième. Allez, pour le fun,
si
c'est sympa.
Je peux juste rajouter un truc aussi. T'as quand même, et c'est là qu'on voit que la famille continue d'exploiter Michael Jackson malgré sa mort. Oui, c'est Billy. La famille continue d'exploiter Michael Jackson, puisque là, Michael Jackson est de retour dans les top 10 des ventes et des coups de Spotify. Et
ils engrangent.
Encore une fois, ils engrangent. Donc en fait, pour moi, ce film ne continue qu'à alimenter une famille de détraqués.
Il faut taxer les super profits de la famille Jackson.
Bon, le troisième, on n'a pas.
Si, ça a été bitit.
On n'a pas entendu.
Dans un instant, la deuxième heure des GG, deuxième heure des grandes gueules, avec la dénatalité. Bruno Retailleau va en revenu familial à 240 € par mois dès le premier enfant, 1 000 € à partir du troisième enfant. Est-ce que c'est ça qui va nous sortir de l'hiver de la natalité? Est-ce que c'est motivant? Les enfants, c'est une question d'argent. Et puis on a Jérôme Gage, député socialiste. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.